Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 20h, nous sommes le jeudi 23 avril, et comme tous les jeudis, une semaine sur deux, vous écoutez le journal radiophonique amplifié sur Transistor. Toute l'équipe s'est réunie ce soir autour de l'actualité. Au programme, la gestion de l'épidémie en France et dans le monde, des nouvelles de Viktor Orban en Hongrie, un retour en Italie, de la musique, du sport, de l'économie, bref. Comme d'habitude, c'est l'heure de l'actu mixée, égalisée, montée et toujours aussi dématérialisée qu'amplifiée. Et on commence ce journal avec le National, avec Rémi qui nous emmène à Villeneuve-la-Garenne.
Violence policière, oui, à nouveau à la une de notre journal, des violences qui se poursuivent plus que jamais pendant ce confinement, et c'est à Villeneuve-la-Garenne en effet que nous allons cette fois-ci, et où des agents de police ont grièvement blessé un jeune motard en ouvrant une portière de voiture sur son passage le week-end dernier. Alors que le jeune homme Moody C est hospitalisé et que l'IGPN est saisi, l'attention a franchi un palier depuis plusieurs jours dans les banlieues. Dimanche soir, Villeneuve-la-Garenne s'est embrasée et la nuit s'est émaillée d'affrontements avec la police, feux d'artifice et voitures incendiées contre lacrymogènes et LBD. Le journaliste Taha Bouafs, présent sur place, a été interpellé puis relâché. Et alors que les conditions du confinement des classes les plus défavorisées sont bien souvent passées sous silence, les élus locaux alertent sur la situation de tension que vivent les banlieues. Tous les jours, je cite, dans les quartiers, on frôle le point de rupture, lance le maire de Clichy-sous-Bois dans Le Monde. De leur côté, les forces de l'ordre vendent sur internet les mérites de la Sainte Portière, devenue un mème sur les groupes Facebook de policiers, deux salles, deux ambiances.
Et il est temps de retourner à l'école. Suite à la prise de parole du président le 13 avril dernier, Jean-Michel Blanquer, a dévoilé ce lundi son plan de réouverture des écoles, tant attendu. Dans son allocution, Macron envisageait en effet une reprise pour les élèves à partir du 11 mai, dans 3 semaines. Cette reprise sera, selon le plan du ministre de l'Éducation nationale, progressive, étalée sur 3 semaines. Les plus petits mèneront la danse avec une reprise le 11 mai, pour les grandes sections CP, CE et CM. Puis viendront les collégiens et enfin les lycéens. Car tout le monde sait bien maintenant que les plus petits résistent mieux au virus. Cette reprise se fera également sur la base du volontariat. Les parents ne seront pas obligés d'emmener leurs enfants à l'école. Dans tout ça, ce plan reste en réalité très flou. Les députés de la majorité sont divisés et s'inquiètent pour l'image du président, dans le cas où cette reprise provoquerait la seconde vague du virus attendue par les scientifiques. Et s'inquiète aussi, accessoirement, pour les vies des 16 millions d'enfants et du million de professeurs, qui eux n'auront vraisemblablement pas le choix, concernés par cette reprise. Comment assurer une continuité pédagogique pour les élèves qui choisiront de rester chez eux? Comment répondre à la demande de masques que cette reprise va provoquer? De nombreuses questions restent aujourd'hui en suspens.
Cafard, moisissure provoquant parfois de l'asthme, punaise de lit, laverie fermée, ménage qui n'est quasiment plus fait dans les parties communes, voilà le lot des 126 étudiantes et étudiants confinés à la résidence Mermoz du Crous de Lyon, selon une enquête de Mediacité qui met en lumière les conditions parfois désastreuses dans lesquelles les étudiants sont aujourd'hui confinés. Fortement atteinte par l'arrêt de l'économie, la population étudiante doit en outre composer avec la continuité pédagogique, alors qu'un étudiant sur 4 ne dispose pas aujourd'hui d'une connexion internet suffisante, selon l'Union syndicale L'Alternative. Face à la timidité des mesures gouvernementales qui se limitent à faire peser la prise en charge de la situation sur les établissements, les étudiants s'organisent dans de nombreuses villes, comme à Lyon où un collectif de solidarité étudiante a vu le jour pour distribuer des produits de première nécessité. Une situation qui ne pourra pas durer, alertent aujourd'hui les organisations étudiantes. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a adopté mardi une motion appelant à neutraliser les évaluations pour limiter les effets des inégalités face au confinement. Une proposition d'ores et déjà écartée par la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal.
Et on s'envole maintenant vers l'international, Et Rémi va nous lire une brève écrite par Marie sur l'Iran.
Alors que le monde entier est tourné vers la gestion de la pandémie de Covid-19, l'armée iranienne a annoncé ce matin la mise en orbite de Nour, son premier satellite militaire. Le lancement dont se sont vantés les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, inquiète fortement les États-Unis. Il a été réalisé grâce à une fusée d'un genre nouveau qui témoigne d'une maîtrise des technologies nécessaires à la mise au point des missiles de longue portée. Israël et les États-Unis ont immédiatement dénoncé une violation de l'article 213 du Conseil de sécurité de l'ONU et le secrétaire d'État américain a déclaré que l'Iran devrait, je cite, « rendre ses comptes ». Un épisode de plus dans la série des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Tout récemment, les États-Unis ont dénoncé un incident entre navires américains et vedettes iraniennes dans les eaux du Golfe. Et Donald Trump aurait hier donné l'ordre de détruire toute embarcation iranienne harcelant les navires américains dans le Golfe. La grande réalisation nationale que célèbrent les Iraniens risque donc fort de mettre de l'huile sur un feu déjà brûlant, alors que l'Iran fustige des sanctions américaines qui l'empêchent de faire face au Covid-19. Affaire à suivre.
Et j'aimerais vous parler des États-Unis. D'abord, pour resituer, les États-Unis sont aujourd'hui le premier pays touché par le coronavirus, avec un nombre de contaminés avoisinant les 850 000 et plus de 45 000 morts au dernier recensement. Et c'est bien en ce même pays que naissent en ce moment même les mouvements de protestation contre le confinement. Beaucoup de monde a vu passer sur les réseaux cette pancarte sur laquelle on pouvait lire « confinement égale terrorisme ». C'est dans ces manifestations réunissant quelques centaines de personnes au New Hampshire, Maryland et Texas notamment, que ces anti-confinements se retrouvent. Les chiffres annoncés par le gouvernement mentent. Le confinement est contraire aux libertés fondamentales protégées par la Constitution. Les raisons de se rassembler ne manquent pas. Et puis, pourquoi s'inquiéter d'être contaminé si le virus n'existe tout simplement pas? Parce que s'arrêter là serait faire la moitié du chemin, ces manifestations reçoivent le soutien de nombreux hommes politiques, Trump ayant même sous-entendu qu'il s'y ralliait en estimant que certains gouverneurs étaient allés trop loin. Mais après tout, comment s'étonner de ces révoltes? La pauvreté tue aussi bien que le corona, clament les manifestants, dans un pays où très peu d'aides sont prévues pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Ces manifestations révèlent la peur des citoyens qui ne font plus confiance à l'État qui leur impose les lois. Et nous allons maintenant parler de pétrole avec Victor qui lit une brève de Marie encore.
La baisse est historique. Hier, le prix du baril de pétrole brut est passé en dessous de 0 euro. Et ce, malgré le récent accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite pour réduire la production. Alors pourquoi une telle baisse? Eh bien parce que personne ne veut acheter de pétrole à court terme. La demande devrait chuter de 30% dans le monde en avril. Et certains sont prêts à le vendre à perte, car ils n'ont nulle part où stocker l'or noir et veulent absolument s'en débarrasser au plus vite. La conséquence, si les États-Unis et la Russie devraient pouvoir absorber le choc, ce dernier devrait durement frapper des pays comme le Venezuela ou l'Iran, mais également l'Algérie et l'Irak, extrêmement dépendants de leurs exportations pétrolières et déjà confrontés à d'importants mouvements de contestation. La population ne semble pas prête à accepter des mesures d'austérité de la part d'un régime toujours plus contesté. Même inquiétude pour les dirigeants des États pétroliers africains comme le Cameroun et le Gabon, dont le pouvoir repose sur la rente pétrolière.
Et on passe à l'Asie. L'Asie compte désormais un tiers des cas de Covid-19 enregistrés dans le monde, alors qu'on pensait l'épidémie sous contrôle. La région fait face à une deuxième vague de contamination, souvent liée à des cas importés. Singapour a interdit les visites de courte durée. La Thaïlande a enregistré 188 nouveaux cas ce week-end. Et le nombre de cas a presque doublé à Hong Kong en une semaine. Plusieurs États craignent un pic épidémique provoqué par les personnes asymptomatiques non testées et des gestes barrières de moins en moins respectés. Au Japon, par exemple, pays le plus touché d'Asie, le nombre de cas a flambé après le 20 mars, quand la population s'est réunie pour l'équinoxe de printemps. On soupçonne également le Premier ministre Shinzo Abe d'avoir minimisé l'ampleur de l'épidémie pour justifier l'organisation des JO. En Chine, deux nouveaux foyers ont fait leur apparition, dont un situé près de la frontière russe. Il faudra donc éviter la saturation de systèmes de santé déjà fragiles et éviter une flambée non maîtrisée. Et ce sera tout pour le journal aujourd'hui. On passe à un billet d'ici présenté par Nicolas qui portera sur le confinement en résidence étudiante.
C'est le mouvement Nuit Debout se poursuit.
Des fascistes, des réactionnaires.
C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
Et vous n'êtes pas sans savoir que le confinement continue également à l'intérieur même des bâtiments de l'ENS. Et histoire de couper avec les biais politiques et d'ailleurs qui se sont attardés sur les effets plutôt macro du confinement et d'ajouter un regard un petit peu différent sur la question sans tomber dans le journal de confinement à la Leïla Slimani, j'ai décidé d'aller voir quelques-unes et quelques-uns de mes amis pour parler un petit peu de ce que ça fait d'être confiné en plein dans son campus universitaire. Tout commence dans ma propre cuisine, transformée temporairement en salon de coiffure.
Tu veux dire qu'on a peut-être fait 12
Non, on avait sûrement fait 18.
Ah.
En gros, moi je suis chaud pour 15 et un peu plus rasé quand même.
Un peu plus haut?
Ouais, un peu plus haut et plus sur les côtés aussi.
Je sais pas okay.
Ce que t'en penses.
Bah alors ça veut dire que tu veux plus court que là?
Est-ce qu'on a des sabots?
Tu veux un peu plus court que là?
Ça aide la résidence ou pas? Ça fait quoi d'être confiné dans sa propre université?
C'est plus trop mon université, étant donné que les cours n'y ont plus lieu, et c'est plutôt une bonne bande de potes qui sont confinés ensemble.
Ouais. Notre université, on la cherche.
On la cherche?
Ouais, on n'a pas encore trouvé la recherche et tout. Hein. Y a des bâtiments, il y a des tables, il y a des chaises, mais on ne sait pas trop où est le savoir encore.
Alors c'est vrai que ça fait un mois et demi qu'on se retrouve coincé dans un campus sans aucun personnel administratif, ni professeur, ni même cours en présentiel et aucune des infrastructures qui sont d'habitude disponibles pour les élèves ne sont ouvertes à part le jardin. Alors c'est vrai que le campus en perd un petit peu toute son essence.
Enfin, moi personnellement je me sens pas trop sur un campus universitaire.
Tu te sens plutôt où?
Je me sens plutôt à la maison.
Maison.
Je me sens dans cette magnifique ville qui est Lyon, genre ouais, je me sens dans mon quartier. Gerland représente.
Et quand t'arrives 20h le soir, est-ce que t'applaudis?
Oh putain non. Non bon, je dis, hein, on va pas se mentir. Au début j'étais naïve. Ça m'est arrivé 2-3 fois d'applaudir. Et ensuite, j'ai vu un peu des témoignages de soignants. J'ai vu un peu comment notre président présentait la chose. Et je me suis rendu compte que c'était une énorme connerie que d'applaudir les soignants. Parce que de une, bah, ils ne nous entendent pas. Parce que bah, soit ils sont trop KO, ils sont en train de se reposer chez eux, soit ils sont en première ligne, comme on dit. Donc, de fait, ça ne change rien. Et ensuite, c'est juste, ça nous donne la vague illusion de faire partie d'un effort national.
20h, tu fais quoi à 20h?
Non... En vrai, on n'applaudit pas.
Pourquoi vous applaudissez pas à 20h?
Parce qu'on trouve ça hyper hypocrite.
Ça,
c'est vrai, pourquoi?
Parce que, en fait, tu vois que la plupart des gens qui applaudissent, genre à Paris et tout, moi je connais, j'ai vu des images des gens de ma famille et tout qui applaudissent et en fait qui sortent autant qu'avant, voire plus. Du coup, je trouve ça vraiment hypocrite d'applaudir. Et puis, ça sert à rien des applaudissements, c'est pas ça qui va nourrir. Enfin, c'est pas ça qui va les aider, qui va aider les hôpitaux et voilà, enfin, genre. Bah ouais, c'est juste, je trouve que c'est de la démonstration hypocrite d'espèce de gratitude qu'on ne met même pas en acte.
Nous, à part les applaudissements à 20h, il y a quelqu'un au bout de la rue André Bollier qui diffuse de la musique très 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 fort tous les jours entre 19h et 20h, et c'est comme si un monde parallèle s'ouvrait à nous, et puis même nous, on a commencé à prendre nos aises à l'intérieur du campus. Bon, c'est vrai, c'est un peu comme si d'une certaine manière la vie sauvage reprenait son cours à l'intérieur du campus de l'ENS. Bon, on ne peut pas aller jusqu'à l'exemple des dauphins qui retournent dans le vieux port ou alors les cerfs qui retournent sur les pistes de ski, mais c'est un peu comme si on s'était totalement affranchi des limites, des striations que normalement posent des bâtiments comme le Crous ou alors comme les bâtiments en recherche, parce qu'on peut aller n'importe où puisque on n'a qu'accès à l'extérieur. Alors on se retrouve à découvrir des nouvelles parties du jardin et à se focaliser bien plus sur la population mouflonnaise de l'ENS qui d'ailleurs a accueilli un nouveau petit. Bon, l'administration s'est quand même bien fait critiquer pour avoir organisé tout un appareil de communication autour de la naissance du nouveau mouflon, ou devrait-on dire mouton de souhait, alors que les formalités et les modalités d'organisation du concours n'étaient même pas détaillées par cette même administration. Alors, on s'est quand même intéressé à ce que le mouton allait devenir, et puis il y avait des propositions assez étranges qui nous ont été proposées. On ne sait pas trop qui les a décidées, mais on se doute bien que ça doit être des membres de l'administration. Toi, tu avais voté pour quoi ?
Pour Rémus, parce que sa toison, je ne sais pas, les petites bouclettes d'un mouflon, eh bien, ça m'évoque l'Antiquité. Et donc Rémus, je trouvais que c'était un très beau prénom pour ce bébé né sur les ruines de l'empire que fut l'ENS pendant le confinement, et qui va permettre de reconstruire peut-être la joie dans les cœurs au moment du confinement.
Merci Aileen.
Le choix était rude, effectivement. Il y a beaucoup de prénoms qui étaient très intéressants, mais j'ai préféré Rebelle.
Rebelle ? Pourquoi Rebelle ?
Parce que l'ENS est en lutte et ce n'est pas le confinement qui va l'arrêter.
D'accord, d'accord. Et pour le prénom masculin, par contre, tu as choisi
Rodin.
Rodin.
Ça sonne bien.
Ça sonne bien, c'est vrai. On vient d'apprendre que c'était un mâle.
Oui, je sais. Comment il s'appelle, du coup ?
T'as voté pour quoi ?
Restez chez vous.
Bon, voilà, c'était un biais, d'ailleurs, un petit peu éthéré, un petit peu tranquille, mais c'est une tranquillité qui n'a d'égal que la tranquillité du campus en ce moment, et on entend très très bien les chants d'oiseaux autour de nous et le bruissement des feuilles dans les arbres.
Et il est 20h17 voilà, sur Transistor.
Si poétique, je vous laisse.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Il est donc 20h18 sur Transistor. Le virus n'a peut-être pas été créé par les Chinois, mais il peut très bien être un prétexte pour des renforcements de pouvoir. Rémi va nous lire le billet d'ailleurs de Marie. C'est le billet d'ailleurs, 20h18 sur Transistor.
Eh oui, Martin, en cette période, il y a plusieurs énigmes du genre... Pourquoi cette passion soudaine pour le pain fait maison ? Et parmi ces énigmes, il y a celle de la Suède. Alors que les pays d'Europe imposent le confinement à leur population, la Suède est la seule à choisir une stratégie différente. Même si le gouvernement encourage le télétravail, interdit les rassemblements et déconseille la sortie aux personnes à risque, la Suède n'impose pas de confinement à ses habitants et les écoles, restaurants, parcs et cinémas restent ouverts.
Et ceci parce que la Suède reste peu touchée.
D'abord, cette politique peut paraître surprenante. En effet, d'ailleurs, 2000 médecins et scientifiques ont signé une pétition pour le renforcement des restrictions en Suède. Et en effet, même si le pays est peu dense et que 40% des ménages sont composés d'une seule personne, la Suède est quand même fragile face à la crise. Aucun dépistage massif n'est pratiqué et le taux d'équipement en lits d'hôpitaux est le plus faible d'Europe. Avec 2,2 lits pour 1000 habitants.
Alors du coup, qu'est-ce que ça a donné cette stratégie ?
Eh bien, la situation reste assez critique, Martin. Le 11 avril, le pays comptait 10 151 cas de Covid-19 et 887 décès, et le nombre de décès a presque triplé en une semaine. Pour rendre ces chiffres plus parlants, pardon, on pourrait dire qu'il y a 10 fois plus de décès en Suède qu'en Norvège, alors que la Suède est 2 fois moins peuplée et que l'épidémie a débuté décidément au même moment dans ces deux pays. Un autre problème qui a été pointé du doigt, c'est que la stratégie met en danger les personnes d'origine étrangère dont les modes de vie diffèrent de ceux des Suédois et ne favorise pas toujours le respect des consignes de distanciation sociale. Et ceux qui sont encore plus en danger, c'est les personnes immigrées, notamment les Somaliens, qui ne sont souvent pas au courant des déclarations du gouvernement, vu que les annonces n'ont pas été faites dans leur langue d'origine. En effet, les statistiques montrent un taux de mortalité très élevé parmi la population d'origine somalienne.
Du coup, comment est-ce que la Suède peut-elle encore défendre son modèle ?
Eh bien, elle affirme qu'au lieu de recourir à la contrainte, elle compte sur le civisme et la responsabilité des gens. Les autorités suédoises citent cet exemple, même si la vaccination n'est pas obligatoire en Suède, 98% des parents font quand même vacciner leurs enfants. Et les gens, en effet, semblent plutôt respecter les consignes, même sans y être obligés. Depuis le début de l'épidémie, il y aurait 70% de gens en moins dans les rues du centre-ville, 50% en moins dans les transports, et plus d'un tiers des habitants seraient en télétravail.
Et donc nous aurions des Suédois naturellement plus enclins à respecter les règles.
Pour l'historien Lars Tragard, auteur du livre « Le Suédois est-il humain ?» chez Kif Extraterrestre, la réponse est oui. Enfin, la réponse à ta question, hein, les Suédois ne sont pas extraterrestres. Il explique qu'il y a un modèle spécifique aux pays nordiques, fondé sur l'individualisme et la relation forte à l'État. En gros, l'individu a une relation directe à l'État, qu'il remet peu en question, en qui il a confiance, et l'État lui garantit la liberté de chacun en le responsabilisant et en le libérant de toute forme de dépendance. Par exemple, les personnes âgées vivent seules, grâce à l'aide de l'État autant que possible, sans dépendre de leur famille. De même, en Suède, le foyer fiscal n'existe pas. Chacun doit être responsable et indépendant et payer ses impôts individuellement. En bref, c'est l'individu qui est au centre du contrat social. Toutes ces caractéristiques, elles expliquent l'existence en Suède de ce que Lars Tragard appelle la « liberté sous responsabilité ». Les gens ont confiance dans les recommandations, donc ils les respectent, et il n'y a pas besoin de contraintes. Alors que dans le sud de l'Europe, par exemple, le système social est différent. C'est plutôt la famille qui est la base du contrat social, et la défiance envers l'État est plus grande.
Et pourquoi cette différence de modèle ?
Eh bien, certains pensent qu'elle serait due au fait que la religion dominante en Suède est le luthérianisme, une forme de protestantisme qui repose sur la liberté de l'individu et sur la non-remise en cause des institutions. Une autre différence aussi, c'est qu'en Suède, les politiques suivent les recommandations des experts, une tradition qui remonte au XVIIe, quand la Suède était dirigée par des instances d'experts et non par le gouvernement. Bref, oui, les Suédois sont humains, et peut-être devrait-on s'en inspirer sur certains points.
Jusqu'à 21h, toute l'actualité mixée, égalisée, montée, enregistrée, captée, compressée,
diffusée,
mixée, égalisée, montée, enregistrée, diffusée, amplifiée.
Sur Transistor.
Et on retrouve Victor pour la revue de presse.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et comme c'est parfois difficile de s'occuper en période de confinement, je voulais partager quelques pistes tirées de la presse du jour. Des pistes pour vaincre l'ennui et tenter de saisir cette crise inédite. Par exemple, vous pouvez essayer les jeux de société.
Une suggestion ?
Alors oui, Pandemix, un jeu collaboratif dont les règles sont simples. Faire équipe pour contenir la propagation d'une pandémie mondiale. Pour cela, plusieurs stratégies sont possibles. Vous pouvez, comme c'est le cas à Java, enfermer les personnes qui ne respectent pas le confinement dans des maisons hantées, des habitations inhabitées et non entretenues. Ou comme Viktor Orban, premier ministre hongrois déjà critiqué pour ses violations à l'état de droit, vous pouvez déployer des militaires en les forçant à libérer 10 000 lits, et donc à expulser des centaines de personnes atteintes de maladies chroniques. Sinon, vous pouvez adopter la stratégie dont parle Andrew Lakoff dans Le Monde, le principe de préparation. Il consiste à anticiper une catastrophe et s'y préparer pour en limiter l'impact. Une technique qui émerge des États-Unis lors de la guerre froide, quand les Américains craignaient des attaques nucléaires mais aussi bioterroristes de la part des Soviétiques. Mais attention tout de même, le but est de se préparer efficacement.
Comment ça ?
Eh bien, si vous commandez, mettons, des respirateurs à une entreprise comme par exemple Air Liquide, assurez-vous qu'il s'agit de respirateurs qui peuvent servir en salle de réanimation et non de modèles qui s'utilisent dans les ambulances et en situation d'urgence. Parce que oui, nous apprend l'Obs, les 10 000 respirateurs commandés en urgence à Air Liquide sont bel et bien inadaptés. Sinon, outre les jeux de société, il y a l'écriture. Pour vous inspirer, vous pouvez ouvrir le journal de Kafka. Vous n'avez pas besoin de quitter votre chambre, restez assis à votre table et écoutez. N'écoutez même pas, attendez simplement. N'attendez même pas, restez tranquille et solitaire. Le monde s'offrira librement à vous pour être démasqué. Il n'a pas le choix, il se roulera en extase à vos pieds. En attendant, ce sont plutôt les tapis de collection qui sont roulés aux pieds de ceux qui écrivent depuis leur manoir normand, inchauffable l'hiver, c'est affreux, leur journal de confinement. Ils y racontent comment la visite virtuelle du Louvre avec les enfants Garance et Charles-Henri, la chute malheureuse de François-Xavier dont les mocassins glissaient sur le carrelage de la salle à manger, la confection du jus de fruits frais avec les voisins parisiens Jean-Eudes et Chantal, et leur désarroi car quand même, la femme de ménage Fatima aurait pu avoir la décence de les accompagner pour leur prêter main forte.
Non, je ne suis pas convaincu. Une autre occupation ?
Alors vous pouvez également vous fixer des occupations plus terre-à-terre. Vous lavez, par exemple. Une étude a montré qu'en cette période de confinement, seuls 67% des Français se lavent entièrement tous les jours. Mais il est surtout possible de tenter de réapprivoiser le temps qui vous est donné. Pour Armut Rosa, cette période est une décélération historique, un remède aux pathologies de la modernité capitaliste. Il nous faut donc cesser de vivre, comme je cite, un hamster dans sa roue, en multipliant les obligations et en fuyant le monde réel. La solution qu'il expose dans sa tribune sur Libé, prôner la résonance, qui s'oppose à la relation instrumentale au monde à laquelle nous contraint la modernité. Une résonance qui s'apparente à une reconnexion au réel et aux autres, une aptitude à nous laisser toucher et transformer par un monde devenu, je cite, illisible et muet.
C'est bien beau tout ça, mais il faudrait aussi penser au monde d'après.
En effet, et peut-être aussi un monde plus vert. Partout dans le monde, de Bogota à Los Angeles, on a créé des pistes cyclables temporelles avec des plots. L'adjoint au maire de Paris propose de transformer provisoirement des boulevards en pistes cyclables. D'ailleurs, dans Libé, c'est un coup de gueule. Non, censure un journaliste, la décroissance sauvage n'est pas responsable de la pandémie. Au contraire, la crise résulte des conséquences de la logique de croissance à outrance, zéro stock, destruction de la biodiversité et autres. La décroissance n'est pas l'austérité, mais un moyen de repenser nos besoins. Quels sont ceux qu'il nous faut nous satisfaire en priorité ? Justement, certains nous donnent des éléments de réponse. Les députés européens signent une tribune dans laquelle ils proposent une transformation du secteur aérien. Car si s'opposer à tout plan de soutien du secteur aérien au motif que l'avion pollue est contre-productif, verser au secteur des subventions sans contrepartie l'est tout autant. Le soutien doit donc se faire selon un plan et sous conditions. Le respect des termes de l'accord de Paris. Pour cela, des mesures peuvent être proposées, avions bas carbone, matériel de roulage électrique, introduction d'une taxe sur le kérosène et investissement dans l'hydrogène.
Mais si l'on est au courant de la nomination de BlackRock comme conseiller de la Commission européenne sur la question d'environnement, on n'y croit pas trop.
Eh bien, vous pouvez déjà vous réjouir, car l'U a annoncé le retour du Figolu, célèbre biscuit fourré à la figue qui avait disparu des rayons depuis 2015. Et si ça ne vous fait rien, sachez que Fabienne Sintès, elle, s'en est réjouie publiquement. Et si vous voulez voyager un peu, je vous suggère le petit village bucolique de Saint-Corona. C'est dans les Alpes autrichiennes et ça risque de devenir le nouveau spot à la mode. Pour voyager un peu, sachez que si vous avez vu des manchots au Cap, des canards à Paris et un puma à Santiago du Chili, vous ignorez peut-être que la cohabitation avec le vivant ne se fait pas toujours de manière idéale. Sao Paulo, par exemple, s'est construite sur un nid de scorpions qui ressortent avec la déforestation, la mauvaise gestion des déchets et le réchauffement climatique, d'où un nombre affolant de piqûres mortelles. C'était l'info du jour, et en attendant, répondez à l'appel de Jean-François Guégan dans Le Monde, le Covid-19, c'est le signal d'alarme et le temps de l'action.
C'est toujours le journal radiophonique amplifié sur Transistor, fer de lance d'un néo-gauchisme que je m'applique à détruire tous les jours sur Transistor jusqu'à 21h.
Et vous êtes sur Transistor, il est exactement 20h30, la moitié de ce journal radiophonique amplifié que vous écoutez. Et nous allons maintenant passer au billet économique présenté exceptionnellement par Nathan.
Oui, c'est l'heure de... Pardonnez-moi pour ce faux départ. Oui, c'est l'heure de l'écho, Martin, et aujourd'hui, on va parler de notre joujou préféré, la bourse.
Une bourse qui rapporte de bonnes nouvelles en ce moment.
Oui, pas trop comme l'a souligné Marie à travers la voix de Victor tout à l'heure. On a eu affaire à un fait historique lundi soir. Le pétrole s'est changé à un prix négatif. ce n'était jamais arrivé. Mais alors, qu'est-ce qu'un prix négatif? Pas tout bonnement, lundi soir, si par un ennui profond, vous veniez à l'idée d'acheter un baril de pétrole, et bien celui-ci serait envoyé chez vous, virtuellement, au moins dans un premier temps, avec à son sommet une petite liasse de $35 sans que vous n'ayez eu besoin de sortir votre portefeuille. Ces prix négatifs sont les conséquences directes de la baisse de la demande. Je rappelle, faire un tour de Twingo n'est pas la chose la plus recommandée en ce moment. Et aussi la conséquence d'un problème de stockage, le pétrole étant très volumineux. Mais plus généralement, ce sont toutes les valeurs des entreprises françaises cotées en bourse qui ont subi une forte baisse depuis le 20 février dernier, même si depuis quelques semaines, on observe une stabilisation au cours à des cours beaucoup plus bas, avec beaucoup d'incertitudes quant à la pérennité et l'équilibre.
Donc un retour à la crise de 2008.
Eh bien, pas vraiment, puisque si en 2008, il était légitime d'insulter les marchés financiers de Faquin ou de Forban, aujourd'hui, il est difficile de leur en vouloir. Bon, je sais qu'avec cette affirmation, ma cote de popularité baisse auprès de mes très chers et tendres camarades gauchias, mais laissez-moi m'expliquer. Si en 2008, la crise a été créée sur les marchés financiers par les marchés financiers, et quelques politiques et décideurs complaisants, on va pas se mentir, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
La crise provient de l'économie réelle.
Exactement, Martin, mais quelle érudition! Le secteur réel, c'est tout ce qui n'est pas la bourse. Enfin, c'est les tacos, les boîtes de nuit, par exemple. Mais aujourd'hui, qui voudrait investir sur les boîtes de nuit lyonnaises, aussi bonnes soient-elles? Pour faire du coude à en sueur, ce serait comme parier sur une victoire de Toulouse, ou bien pour vraiment phagocyter toutes les chroniques, on se refait pas. Ce serait comme parier sur une victoire de Marc Lévy au prix Goncourt.
On a bien compris, oui. Ça paraît risqué d'investir sur des secteurs qui produisent beaucoup moins qu'avant. Mais du coup, qu'est-ce que la science économique prévoit?
Eh bien, pas grand-chose, Martin. Il faut regarder du côté de la sociologie pour en apprendre plus, en vérité. Avec des auteurs comme Céline Grandjou ou F. Seguin, qui, en étudiant la crise de la vache folle, a montré que les scientifiques, même des sciences considérées comme les plus dures, agissaient dans leur prise de parole comme des experts exprimant un point de vue dépendant de plus de leurs espoirs et de leurs intérêts que de leur savoir, car au moment de la crise, il y a trop de nouvelles informations pour que les sciences puissent correctement les traiter. Les experts, alors, sont comme des diseuses de bonne aventure, et surtout en économie, où l'on peut compter les experts pour s'endormir. J'ai entendu, par exemple, en début de chute des cours, que c'était le moment pour investir. On a eu aussi des experts qui prédisaient que la crise ne durerait pas longtemps. Des experts économiques, donc je mets des guillemets, mais des experts économiques qui parlent d'une crise sanitaire. Enfin bon, difficile de démêler le vrai du faux, et difficile d'avoir des certitudes.
Mais ce n'est pas justement le problème de ne pas savoir où l'on va?
Oui, bien sûr. C'est le problème de parler de confiance. Peut-être le seul thème sur lequel on pourrait accorder Lucas et Keynes. Non, je rigole, c'est impossible. Mais faisons un peu de théorie économique et parlons des esprits animaux de Keynes dans le célèbre chapitre 13 de son on ne peut plus célèbre livre « La théorie générale de l'emploi et de la monnaie ». Keynes nous dit que même si l'on retire les spéculations hasardeuses, il y a toujours une part d'instabilité due à la nature humaine qui fait qu'une large propension des choix dépend plus d'un optimisme spontané que d'un calcul mathématique. Problème, en ces temps de crise sanitaire, l'optimisme, on n'en produit pas beaucoup. Chaque jour, les nouvelles économiques, sanitaires et politiques ne sont pas radieuses. Bref, tout un pan récent de l'économie que l'on nomme l'économie comportementale nous dirait que pour le moral des investisseurs, ça va pas bien. Et rajouterait même que comme biais psychologique négatif, on touche parfois le summum. Bon, on peut toujours subventionner le Xanax, mais il y a souvent un autre concept que l'on relie à ce problème de confiance, et c'est celui de la stabilité. Lucas le soulignait, si l'on veut que les gens se comportent rationnellement au moins à minima, il faut les laisser le temps d'anticiper et ne pas changer les règles toutes les 3 minutes.
Là, tu fais référence aux différentes déclarations du gouvernement, non?
Eh oui, parce que je ne sais pas si j'ai réussi à réconcilier Lucas et Keynes, mais je peux au moins faire un petit pont entre Lucas et Mélenchon. C'est ce qu'a reproché le député au gouvernement et qu'en termes d'annonces comme de mesures sanitaires, on a eu du mal à bien comprendre où on voulait en venir. Tenez le masque, par exemple. Au début de la crise, notre porte-parole du gouvernement nous expliquait que les masques n'étaient pas utiles et qu'en plus, nous comme elle, nous ne savions pas nous en servir. Mais maintenant, le débat pour la ville de Paris est « faut-il rendre le masque obligatoire ?» Enfin, économiquement, ce qui est reproché est le flou laissé autour des activités économiques, d'abord lesquelles devaient se poursuivre et ensuite, quand est-ce qu'elles vont reprendre. Le problème pour les investisseurs et pour les hommes en général est que l'autre face des esprits animaux de Keynes est qu'on ne sait pas rester immobile et patienter. Il faut qu'on agisse et peut-être que dans ce flou, on a tendance à surréagir à certaines nouvelles.
Et donc, quelle solution?
Alors, faut-il faire des dons aux entreprises comme travailler plus comme le recommandent les Républicains, mettre en place une planification précise comme le demande M. Mélenchon ou bien se laisser tenter par les opportunités de tester d'autres modèles de croissance? Je ne sais pas, mais prenons entre-temps, ça fait pas mal de réfléchir, et n'oublions pas, quant aux prédictions de l'avenir, pour tous nos experts en arbres, respectons un vieil adage que nous rappelle Booba.
Merci Nathan pour ce billet économique et on va prendre maintenant des nouvelles de nos amis italiens avec Clément.
Oui, merci. Bonjour Martin. Et de l'autre côté des Alpes, l'heure est toujours à l'isolement et au confinement. Et tout comme en France, on commence à réfléchir à la reprise. La date pour l'instant fixée, ce n'est pas le 11, mais c'est le 4 mai. Et comme depuis le début, l'Italie précède la France d'une semaine.
Comment ça se passe, l'attente du déconfinement ?
Eh ben, le temps long est rythmé par des polémiques assez incessantes, critiquent notamment la gestion de crise par la région Lombardie, qui a été la plus touchée avec près de la moitié des morts comptabilisées dans tout le pays. Des critiques qui visent le gouverneur, son adjoint chargé de la santé, car cette région qui est la plus riche d'Italie, la plus industrialisée, qui est le moteur économique du pays, s'est révélée incapable de faire face à l'épidémie. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que d'autres régions auraient mieux fait ou moins bien fait, on ne peut pas le savoir. Et il faut rajouter à cela l'autopromotion de la région concernant son système de santé, privatisé par des années de politique berlusconienne, et dont la structure a failli face au virus, malgré le travail intense du personnel soignant. La privatisation et son corollaire, la rentabilité, ont conduit à négliger la sécurité, la santé des patients, des soignants, des personnes, faisant de certains hôpitaux des foyers de contagion, parce que les protocoles ont été de désinfection, ont été oubliés, comme dans la province de Bergame, par exemple. Alors la région Lombardie s'est lancée dans un bras de fer avec le gouvernement, qui est composé du Mouvement 5 étoiles et du Parti démocrate, notamment parce que cette région est dirigée par la droite et l'extrême droite, et on peut se voir là que se joue un drame de politique nationale. Alors, si l'Italie compte aujourd'hui 25 000 morts, il n'y a pas de décompte précis qui concerne les maisons de retraite du pays, contrairement à la France où les morts dans les EHPAD font l'objet d'un décompte séparé et annoncé tous les jours. Au début, personne n'en parlait, mais peu à peu, comme en France, le scandale s'est amplifié et le nombre des décès cachés ou omis dans les maisons de retraite de la région milanaise est assez impressionnant.
Et sur la reprise, quels sont les débats ?
Ben, on rend des débats, comme dans tous les pays, la préoccupation économique est centrale, c'est-à-dire que deux débats ont agité l'Italie successivement, donc la question des entreprises autorisées à ouvrir, dont j'avais parlé il y a un mois, et les aides de l'Union européenne, très critiquées dans son comportement vis-à-vis de l'Italie. Ça commence à devenir une habitude, mais le mépris du point de vue italien a été cette fois criant, malgré les demandes répétées d'un gouvernement qui comptait beaucoup plus qu'on aurait pu le croire sur un soutien massif de l'Europe, sur la création, la mise en place d'un endettement commun pour répondre collectivement à la crise. La demande a été rejetée, le gouvernement italien a eu bien du mal à s'en satisfaire. Il a obtenu ce soir vers 8h la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel. On verra la suite, mais ça ne renforce pas la confiance envers les institutions européennes. Bien au contraire, et une partie des Italiens ont l'impression qu'une nouvelle fois, on leur demande de s'en sortir tout seul. Alors aujourd'hui, que va-t-il se passer ? Tout le monde est bien conscient, comme en France, que la sortie de la quarantaine, du confinement sera progressive, que tout ne redeviendra pas tout de suite comme avant. Seuls les dirigeants de grandes entreprises semblent penser qu'il est possible de recommencer à travailler tout de suite en Lombardie et aux dépens de la santé des travailleurs, alors que pendant des semaines, la santé des personnes contraintes de continuer à travailler a été sacrifiée sur l'autel des impératifs économiques. Une course à la reprise semble être lancée dans les régions productives du Nord, qui se croyaient invincibles et n'ont apparemment que bien peu appris du mois et demi qui vient de s'écouler. Une fois que cette pandémie qui a révélé les travers et le pire d'une société guidée par l'argent sera terminée, bien des comptes resteront à régler.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et à 20h40, il est l'heure de faire un peu de sport avec Victor et sa chronique en sueur.
Un entraîneur,
ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas faire de faute ! Pas faire de faute !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud !
Cible ! Goal !
l'année dernière, non, le virus.
L'année dernière, on n'avait pas d'opium, hein, je te rappelle.
Ouais, c'est... Quel scandale cet arbitrage, ça ressemble.
Alors que le déconfinement commence à être organisé, le monde du sport essaye lui aussi, tant bien que mal, de se relever après une crise qui met à mal les finances et l'organisation générale des clubs et des fédérations. Le point le plus problématique et généralisable à l'ensemble des sports, ce sont les droits de télévision. En effet, les clubs touchent une certaine somme d'argent en fonction du nombre de matchs joués, et or si les saisons venaient à être annulées, le manque à gagner pourrait plonger plusieurs clubs dans la faillite. Plusieurs fédérations font donc tout pour mener à bout le championnat, quitte à jouer jusqu'en août et trois fois par semaine. En Allemagne, par exemple, la Bundesliga, championnat de football, serait prêt à reprendre dès le 9 mai, et les joueurs sont de retour à l'entraînement depuis plus d'une semaine. Sauf que le problème, c'est que les médecins ne sont pas particulièrement d'accord et alertent les joueurs et les syndicats sur les dangers d'une reprise en pleine pandémie. En effet, non seulement les organismes ne sont pas nécessairement prêts à la reprise d'une activité aussi intense, mais il faut aussi prendre en compte les caractéristiques du Covid-19, qui est une maladie pulmonaire qui peut s'avérer dramatique en cas d'effort trop important. Il faut enfin rajouter à cela que Roxana Marie Senaneu, ministre du sport, vient d'annoncer aujourd'hui que les épreuves se tiendront nécessairement à huis clos au moins jusqu'à septembre, mais peut-être jusqu'à la fin de l'année 2020. Alors on peut en effet, ou plus exactement, on peut les virtualiser et faire de l'e-sport, mais avec des vrais sportifs aux manettes, voire même à vélo. Par exemple, il y a quelques semaines, plusieurs cyclistes professionnels ont participé à un tronçon du Tour des Flandres, célèbre course, en pédalant chez eux, connectés sur l'application Zwift. La semaine prochaine, c'est le Master 1000 de tennis de Madrid qui sera disputé sur le jeu Tennis World Tour, avec notamment la présence de Rafael Nadal, Roger Federer, Gaël Monfils, Angela Kerber ou encore Elina Svitolina. Et les grands studios de jeux en profitent également pour investir autant que possible sur la scène e-sport. Ainsi, l'éditeur de jeux Nadeo, propriété du studio français Ubisoft, vient d'annoncer une nouvelle version de son jeu phare de conduite automobile, Trackmania. Et de son côté, Riot Games, éditeur du légendaire League of Legends, pionnier de l'explosion des tournois e-sport, vient de lancer Valorant, jeu de tir compétitif qui ressemble fortement à Counter-Strike et qui sortira officiellement cet été.
Et pour les sportifs du dimanche, la reprise du sport, ce sera possible quand ?
Alors le plus tôt possible, on l'espère, et de l'avis de certains médecins, une pratique raisonnée de certains sports, en respectant les gestes barrières, serait même essentielle. Une tribune hébergée par reporter, signée notamment par plusieurs médecins comme Solène Petit-Demange ou des sportifs comme Xavier Delerue, des personnalités du monde de la montagne et d'autres géographes, demandent au président un accès responsable à la nature en période de confinement. Les auteurs insistent sur l'aspect primordial du sport et de l'accès à la nature pour la santé mentale et physique de la population, tout en signalant que les espaces de nature demeurent des lieux où la probabilité de propagation du virus est bien plus faible qu'en ville. De plus, les moyens déployés pour surveiller la population dans les zones rurales sont tout aussi coûteux qu'inefficaces. Alors si, comme moi, vous avez envie de partir en montagne mais que vous êtes chez vous, eh bien avec une corde, un appareil photo bien placé et beaucoup d'imagination, on peut très vite partir à l'aventure. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos plus grandes ascensions confinées en vidéo ou en fiction que nous lirons avec attention à nos auditeurs lors des prochains JRA.
Et un peu d'autotélisme maintenant avec Rémi qui va nous parler de Radio Pirate.
Onde courte.
La mort annoncée ce lundi 20 avril de Ronan O'Reilly à l'âge de 79 ans me donne l'occasion de revenir aujourd'hui sur l'une des plus formidables épopées de l'histoire de la radio, celle de Radio Caroline, dont O'Reilly était le fondateur. Alors plantons tout de suite le décor, nous sommes en 1964, la musique pop anglaise est en train de conquérir le monde, le rock britannique est diffusé à longueur de journée sur les antennes états-uniennes, australiennes, canadiennes, mais pas au Royaume-Uni, où la BBC détient un monopole des ondes et ne consent à diffuser que quelques morceaux par jour. le jeune manager Ronan O'Reilly, qui envisage d'abord de lancer un label mais se heurte à l'incapacité de diffuser ses disques, se lance alors dans la création d'une radio, pirate évidemment, Radio Caroline. Mais qu'est-ce qui fait de cette station un fleuron de la piraterie radiophonique, me direz-vous ? Écoutons plutôt ce reportage de 1965.
Cela, c'est Radio Caroline, une radio clandestine qui a 38 millions d'auditeurs. En vain, la presse a-t-elle crié sus à l'émetteur pirate qui volait le ciel à la BBC. Les flibustiers des ondes ont pignon sur rue dans le quartier de Mayfair. Mais ici, l'âme de l'affaire, un Irlandais de 24 ans, Ronan O'Reilly, et son état-major, se borne à prendre les commandes des annonces publicitaires. Pour le reste, il y a le bateau. Un vieux transbordeur, originaire des Caraïbes naturellement, qui a été reconverti, qui bat innocemment pavillon panaméen et qui dresse, hors des eaux territoriales britanniques, l'antenne de son émetteur.
Un bateau, l'idée n'était pas nouvelle, mais cette fois-ci diablement efficace, puisqu'après seulement quelques semaines, Radio Caroline totalise près de 7 millions d'auditeurs par le... Pardon, la suite de l'histoire, je me trompe de feuille, est elle aussi digne d'un roman de piraterie, et c'est celle d'un long conflit avec les autorités britanniques, qui interdisent en 1967 toute diffusion, même hors des eaux territoriales, et toute contribution à une telle diffusion. Très vite, les revenus publicitaires disparaissent et les créanciers ont temporairement raison de la station, qui renaît quelques mois plus tard pour faire campagne contre le gouvernement en place, qu'elle contribue à faire chuter en 1970. L'aventure reprend vraiment en 1972, mais le bateau, qui se dégrade d'année en année, devient invivable pour les animateurs et finit même par couler en 1980. Qu'à cela tienne, un nouveau bateau est affrété 3 ans plus tard, jusqu'à ce qu'en 1989 il soit pris d'assaut par l'armée, rien que ça. Et depuis, la radio s'est encore une fois réveillée, sur Internet d'abord, puis sur une bande AM moribonde, mais son audience n'a plus rien à voir avec celle du mythe Radio Caroline, qui a entre autres inspiré le film Good Morning England à Richard Curtis en 2009.
In 1966, there were 571 American radio stations blasting rock and roll 24 hours a day. But in the country that gave you the Beatles and the Rolling Stones, the only way to hear the music was to tune in to a boat.
You are listening to Radio Rock and I'm the Count. And I'm counting on you as we count down to ecstasy.
Rock on!
They were called pirates.
Pirate Radio.
The government made them outlaws.
The drug takers and the law breakers and the bottom-bashing fornicators.
I will soon be the first person to say the F word on rock and roll radio.
But they risked it all.
You can't do this.
Why not? We're pirates. That's why we're sitting out here in the middle of the friggin' ocean.
For the music they love.
Si Radio Caroline a atteint cette stature de mythe, ce n'est certes pas que grâce à cette histoire rocambolesque, mais bien parce qu'elle a durablement imprimé sa marque sur l'histoire du média radiophonique. Parle-t-on qu'elle a contribué à imposer en Europe déjà, en recrutant plusieurs animateurs outre-Atlantique et en confiant le micro à de jeunes Anglais parfois sans réelle expérience radiophonique, faisant soudain débarquer dans l'Angleterre policée des années 60 des voix survoltées enchaînant formules choc et blagues potaches à l'antenne, un modèle qui va se diffuser dans toute l'Europe dans les années 60 et 70. L'un des animateurs vedettes de Caroline fera d'ailleurs un passage remarqué par les ondes de RTL. Cette liberté de ton, cette place accordée à une musique jeune et la remise en cause du monopole d'État, trois ingrédients pour une recette qui fera nombre d'émules en Angleterre, mais aussi en Italie et finalement en France un peu plus tard, mais vous connaissez cette histoire. Enfin, Radio Caroline, c'est aussi un rôle certain dans le développement d'une nouvelle musique et la population de groupes comme les Who, un rôle de tremplin des musiques émergentes que la radio assurera sans faillir pendant plusieurs décennies par la suite.
This is Radio Caroline on 199, your all-day music station. We are on the air every day from 6 in the morning to 6 at night. The time right now is 1 minute past 12, and that means it's time for Christopher Moore.
Hello and happy Easter to all of you. This is Christopher Moore with the first record program on Radio Caroline.
The first record is by the Rolling Stones, and I'd like to play it for all of the people who worked to put the station on the air, and particularly for Roland.
Here we go, invite you to sail away on an ocean of love. Twenty-four hours a day, Caroline and me amigo, sailing away on the love ship. And we'd like you to join us. It's easy. Just climb aboard the love ship and sail away.
Climb aboard the love ship and sail away. We won't get off until we reach those rosy, rosy days.
Et pour en savoir plus sur Radio Caroline, une liste de liens sera disponible sur la page de la chronique. Transistor diffusera aussi dans quelques jours un retour tout en son sur cette épopée radiophonique. Il est 20h51, vous venez d'écouter Ondes Courtes avec Rémi et nous allons maintenant écouter un peu de musique avec Nathan, la dernière chronique de ce JRA.
Merci Martin, alors dans cette chronique on parlera de R&B, jazz et de rap aussi, et donc du coup avec Dabey qui a pour particularité de se balader en couche-culotte lors de festivals. C'était le cas à South by Southwest en 2017. J'ai une foule de blagues qui me viennent à l'esprit, mais ayant aperçu quelques vidéos du rappeur en couche présentant ses accomplissements de bad guy, je vais me contenter de lancer le générique le plus vite possible pour éviter une sentence qui sera, je pense, salée.
Où je vais dire des trucs simples.
I need somebody.
Non, vous m'avez laissé la musique à la fin, moi je travaille. Je suis très touchée, mais...
Quel ne fut pas mon désir d'enfuir cette envie. Quel ne fut pas mon chagrin. Tout dans notre amour a disparu aujourd'hui. Ma belle vie s'est retrouvée anéantie.
C'est l'instant R&B.
Oui, exactement. Sortez votre miel, vos bons sentiments et votre mélancolie. On veut pleurer sur ses ex et répéter nos plus belles niaiseries car Division ont sorti A Muse Inner Feeling.
I wrote this cause you won't pick up the phone. Don't say nothing, girl, just sing along. If you miss me, like I be missing. Tell me, do you miss me? Like I be missing you. Soon as I get you out my system, girl, I relax. Sweating in the cold, I can't relax.
Troisième album, troisième réussite?
Peut-être, mais revenons d'abord sur les deux Lascar. Division est un duo de chanteurs-producteurs qui se sont fait connaître en 2015 sur SoundCloud, soit la plateforme qui a eu le plus d'enfants dans l'histoire de la musique, avec carrément une acoustique qui lui était associée.
Tu disgraces.
Oui, la nostalgie parle. Enfin bref, le son SoundCloud n'est pas vraiment ce qui caractérise le mieux les deux bouts. L'esthétique Ovio les correspond plus.
Et pour cause, le producteur 1985 avait déjà ses entrées dans le label de Drake.
Soit Ovio, pour ceux qui ne suivent pas. Et pourquoi ils avaient ces entrées, Marine?
Ravi que tu me demandes à l'intellect du duo.
Mais c'était pas dans le script, ça.
Bien, 1945 avait déjà produit l'immense Too Much de Drake et surtout le hit intersidéral Hotline Blind.
You used to call me on my cell phone.
Exact, et il va continuer à en produire des hits puisque 1985 produira par la suite One Dance qui est resté 10 semaines au top des ventes aux États-Unis. On a donc l'assurance d'avoir un producteur à succès et aussi de talent car avec 40 Shabib, le grand producteur et l'un des plus grands artisans du son froid de Toronto, 1985 a su démontrer ses talents devant des instruments aux percussions et à l'ambiance froide et espacée qui tombent sagement dans nos oreilles.
Comme la neige sur Toronto.
La métaphore pourrie n'était pas dans le script.
Un partout. Ce qui caractérise les productions du duo, c'est cette froideur et cette élégance, en partie due à des coupes de fréquences les plus aiguës pour laisser toute la place à une voix entre ténor et fossé.
Donc aiguë.
Et même très aiguë, occuper toute la place dans nos oreilles. Car là est l'autre atout du duo. La voix de Daniel Dele, qui reste dans la pure tradition R&B, et a permis au duo de sortir un premier album en 2015 qui réussissait à lier les fans des grandes heures du R&B et ceux plus avides de nouveautés.
Des fans du R&B des années 90, parfois plus chiants qu'un fan de Star Wars qui te parle des affres que lui procurent les productions Disney.
Bien que le premier album nommé Sept Fifth était une bonne surprise, il n'a pas très bien vieilli et se perd dans ses albums qui ont du mal à se défaire de l'héritage d'un genre. Le second album gardait tout ce qu'il y avait de bien et allait chercher un peu plus loin en termes de production, mais peut-être pas assez, car certains reprochaient la répétitivité du propos d'un album à l'autre.
Et pour le troisième ?
Pour le troisième, on garde une colonne vertébrale R&B tout en smoking et en passage de lèvres, et on rajoute quelques sorties de territoire avec de nombreux featuring de qualité et des ouvertures à d'autres types de productions, dont un très bon exemple est No More Crying, avec Future, où l'on a l'impression d'entendre une chute de production de Drake et Future. Le résultat est à l'image de l'album, c'est bon, mais jamais surprenant.
Don't you go back to him, too many chances. Too many nights out of space on other planets. This keep on happening. Just breathe, relax, girl, night. It should bounce back. Trust me, you'll be alright.
All I gotta say.
Only one thing you need to remember. Ain't nobody crying in the club. Hey, you can do.
C'était No Crying de Division et après quasi surprise de l'album Blame It On Baby de Dada B. Annoncé quelques jours avant l'annonce de l'album Tout en masque spécial geste barrière, le nouvel album posait la question brûlante: Dada B va-t-il changer de flow?
Un peu de contexte avant de répondre à la question. The Baby est un rappeur de Caroline du Nord qui se fit un nom aux alentours de 2017 avec des titres arrivant à lier attitude de gangster et bonne humeur. J'aurais mieux faire passer un extrait, mais les impératifs de temps nous l'empêchent. En tout cas, ce que l'on entend dans ses premiers morceaux, c'est un flow, c'est-à-dire la manière dont le rappeur joue ses paroles sur l'instrumental, qui, depuis 3 ans, ne varie peu. Des fois, Dada B l'accélère, des fois le ralentit, le perfectionne, mais en soi, il reste le même. Il faut dire que la diction du rappeur de 28 ans est très efficace, technique aussi. Et une fois maîtrisée, elle permet de se jouer de la maîtrise et de redéfinir un rythme décalé, qui procure cette étrange bonne humeur dont transpirent les morceaux de Dada B.
Cependant, malgré la sympathie naturelle qui se dégage du personnage, les auditeurs de la première heure pourraient commencer à se lasser. Il faut dire que les variations d'instrumental ne sont que trop marginales et restent trop classiques pour combler un rappeur redondant. Mais y avait-il de l'espoir, puisque dans son grand hit, Dada B se demandait à lui-même de changer de flow. Alors l'a-t-il fait ?
Eh oui, alléluia ! Bon, ça reste Dada B, 75% de l'album est par le même flow, et parfois quand il s'éloigne ça devient un peu trop conventionnel, mais il y a des variations. Et en soi, ce serait malhonnête de dire qu'il ne change jamais. Le public est aussi coupable, puisque les morceaux qui marchent le mieux sont ceux où précisément où il rappe de la même manière depuis 2 ans. Hormis ça, que vaut l'album, aussi bien que les anciens? Ceux qui se lassent de Dada B ne le réécouteront peut-être pas en boucle, ceux qui ne connaissent pas ou l'ont découvert l'année dernière avec ses immenses hits comme Bop ou Suge devraient alors y jeter un coup d'œil, car pris à part, c'est un très bon album.
Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum and hold a 100. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do. She know if I run from a nigga, I'ma pull it out. Shoot. PTSD. I'm always waking up a cold sweats like I got the flu. My daughter a G. She saw me kill a nigga in front of her before the age of 2, and I'd kill another nigga too before I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different. Daddy love you.
On change de continent pour passer des États-Unis à l'Angleterre avec le producteur Alphamist qui en 2017 sortait l'excellent Antipon et braquait les projecteurs sur ce jeune producteur et le propulsait rapidement au grand nom de la nouvelle scène du jazz anglais, porteur d'un son au croisement du jazz, du hip-hop et du R&B. Ce premier disque n'attendait qu'une suite pour confirmer le talent du Britannique. C'était chose faite en 2019 avec Structuralism. Et Alphamist sortait ce vendredi un troisième album nommé Époque, où il s'associait avec la chanteuse, compositrice, productrice Emma V pour un album plus jazz-chant, peut-être moins innovant mais plus efficace d'écoute, et toujours accompagné d'accords magiques, une rythmique précise et une chanteuse dont on trouvera difficilement quelques défauts. En bref, on avait peu de doutes sur le fait que cet album serait mauvais, et Alphamist nous a donné raison avec une science toute naturelle de la musique qui coule des doigts de l'autodidacte jusqu'aux oreilles des plus néophytes pour un album qui s'écoute en toutes circonstances avec un grand plaisir.
Et c'était la musicienne avec Nathan et Marine Di Micheli. Il est 21h01 et c'est le moment de clôturer ce journal radiophonique amplifié. C'était donc le journal radiophonique amplifié en direct depuis chez nous, pour vous et malgré le confinement. Ce soir, il y avait Marie Douniac, Nicolas Sende, Rémi Cerda, Victor Andrade, Nathan Vieira, Marine Demichelis, Clément Louis et Martin Touzeau. À la régie un peu adaptée, c'était Rémi Cerda et un peu tout le monde. On se retrouve tous et toutes dans 2 semaines. D'ici là, confinez-vous bien, reposez-vous bien. Et à bientôt sur Transistor.